CFM en Tarn-et-Garonne, le mag. CFM en Tarn-et-Garonne, le mag.
Bonjour tout le monde, merci d'écouter CFM Radio, c'est l'heure de votre magazine en Tarn-et-Garonne et aujourd'hui il est consacré à la politique avec Politiquement Votre, avec Kader Youb. Bonjour Kader.
Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Pierre-Antoine Lévy, sénateur de Tarn-et-Garonne, est notre invité aujourd'hui. Bonjour Pierre-Antoine Lévy.
Bonjour Kader.
Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous sur CFM Radio. Alors, avec vous, nous allons évoquer le mouvement de contestation contre le projet de réforme des retraites actuellement en discussion au Parlement. Nous allons évoquer aussi le texte de loi, le projet de loi de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, portant sur l'immigration, notamment, un projet qui a été présenté en Conseil des ministres mercredi. Avec vous, nous allons aussi évoquer votre rôle de sénateur, notamment votre action, les questions que vous avez posées, notamment au ministre de la Poste, si je peux dire. Un mot, tout d'abord, sur le projet de réforme des retraites qui s'est intensifié lors de la deuxième journée de mobilisation de mardi dernier. La CGT a estimé qu'ils étaient 2,8 millions dans toute la France contre 2 millions le 19 janvier. Le ministre de l'Intérieur a lui comptabilisé 1,272 millions. On le voit, une mobilisation très forte qu'on n'avait pas vue depuis 10-15 ans même, selon les observateurs. Accélérer le tempo, élargir la contestation, les 8 principaux syndicats de travailleurs et 5 mouvements de jeunesse veulent encore durcir le rapport de force avec le gouvernement. Ils ont annoncé 2 nouvelles mobilisations pour le mardi 7 et le samedi 11 février. Leur objectif reste bien sûr le même, obtenir l'abandon d'un projet qui est, semble-t-il, repoussé par une très nette majorité de la population. Pierre-Antoine Lévy, quel est votre avis sur cette réforme ? Fallait-il la faire ? Est-ce qu'elle est juste ? Est-ce qu'elle est tenable pour le gouvernement ?
Alors la question, est-ce qu'il fallait faire une réforme des retraites ? Réponse, oui, il faut faire une réforme des retraites, mais pas de cette façon. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a réussi à mettre tout le monde dans la rue parce qu'il s'y est très mal pris en termes de communication. Tout d'abord, passer par le PLFSS, c'est-à-dire projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale rectificative, c'est pas très courageux, je trouve. Tout simplement parce que on va voter par amendement, on va prendre le temps parlementaire, c'est-à-dire 50 jours normalement, pour faire passer le texte entre l'Assemblée et le Sénat. Vous savez qu'au bout d'un certain temps de discussion, même si les amendements n'ont pas été tous discutés, texte s'arrête et derrière il part au Sénat, ce qui veut dire que on est dans un délai qui va être contraint.
Mercredi soir, seulement 400, je crois, 400-500 amendements sur 7000 qui avaient été observés, analysés. Oui. Est-ce que c'est tenable ?
Mais non, c'est pas gérable. Alors, c'est pas non plus gérable et c'est pas non plus acceptable de multiplier les obstructions au vote en déposant des milliers d'amendements dont certains n'ont même pas référence au texte. Ça, c'est la stratégie de la NUPES depuis des années. C'est l'obstruction parlementaire. Ils l'ont fait pour le budget. Donc, on est habitué. Maintenant, ce n'est pas non plus responsable de la part du gouvernement de ne pas avoir fait une vraie loi cadre. Pourquoi ? Parce que la réforme des retraites, ça ne se traite pas dans un PLFSS. Ça se traite dans une loi cadre. Emmanuel Macron l'avait dit en 2019 qu'il aurait pu avoir une loi cadre. À l'époque, si elle avait été une vraie loi de réformation, de modernisation de nos retraites, parce qu'il faut la dépoussiérer totalement, notre loi sur les retraites, il y en a eu plusieurs qui se sont succédées, peut-être que ça aurait été mieux accepté. Aujourd'hui, on parle d'âge de départ, alors qu'on devrait plutôt parler de cotisation, 64 ans, de durée de cotisation. Il y a tellement d'inconnus. Vous me demandez si je vais la voter pour l'instant. Elle n'a pas été examinée au Sénat. En l'état actuel, en l'état actuel des choses, je ne la voterai pas. On va l'améliorer.
Vous allez proposer des améliorations.
Bien sûr.
Mais par exemple, Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur cette réforme. Lui, il a appelé tous les républicains à voter cette... vous n'êtes pas au LR. Et on va en parler un peu plus tard. Vous n'êtes pas au LR. Mais est-ce que cet appel de l'ancien président à voter cette réforme a des chances d'être entendu par les sympathisants, enfin, par les députés?
Aujourd'hui, vous savez, quand on vote des textes, quand on analyse les textes au Sénat comme à l'Assemblée nationale, on le fait, on va dire, en toute connaissance de cause, après avoir analysé tout un tas d'éléments. Bon, cette réforme des retraites, elle est nécessaire. Nous avons, nous, des chiffres concernant le déficit annoncé en 2030 du régime des retraites. Si on ne fait pas de réforme des retraites, il y aura à un moment donné une impasse. On ne peut pas avoir une espérance de vie qui soit de plus en plus étendue, de plus en plus longue, et travailler moins, ce n'est pas possible, soit si on augmente la durée de cotisation, soit si on augmente l'âge de départ à la retraite. Mécaniquement, ce n'est pas possible. Donc, ou alors, on augmente fortement les cotisations, soit patronales, soit salariales.
Ce qui n'est pas possible en l'état.
Le coût du travail est déjà tellement cher que si vous faites ça, vous risquez de décourager des employeurs à ce moment-là qui pourraient débaucher au lieu d'embaucher.
Mais parlons aussi des salariés qui sont en difficulté aussi.
On ne peut pas se permettre aujourd'hui, avec le pouvoir d'achat qui est mis en difficulté avec la hausse des prix de l'énergie, la hausse des matières premières, la hausse des matières alimentaires. On ne peut pas en plus rajouter une hausse des cotisations salariales. Donc, quelle est la variable d'ajustement? C'est soit l'augmentation de la durée de cotisation, automatiquement, et l'âge de départ à la retraite. Encore une fois...
Mais c'est ce que propose le gouvernement.
C'est ce que proposaient les Républicains dans leur projet
présidentiel.
Sur le principe... Nous sommes d'accord qu'il faut augmenter l'âge de départ, mais par contre, moi je pense que c'est une question de méthode. Vous avez d'un côté la durée des cotisations, mais moi, il faut imaginer peut-être quand on a fait 43 annuités de cotisation, pouvoir partir, ben, si on a commencé à 18 ans ou 19 ans, partir 43 ans plus tard, et pas à 64 ans. Il faut à un moment donné adapter également la pénibilité, ça aussi c'est un vrai sujet. Quels sont les critères de pénibilité? Pénibilité physique, pénibilité mentale. Vous avez des métiers qui mentalement sont très difficiles, des professeurs... Dans certaines zones géographiques, dans certains établissements, ça peut être compliqué aussi. On peut en parler, mais il faut évaluer des critères objectifs de pénibilité. Et ensuite, durée de cotisation, là aussi, à mon avis, donc 42, 43 ans, pourquoi pas, encore une fois, mais pas forcément 44 ou 45 ans pour ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans. Notamment les carrières longues.
Je sais que vous n'êtes pas pour avoir la réputation de commenter les déclarations des personnalités politiques, mais en fait, lorsque Elisabeth Borne, la première ministre, a déclaré qu'il y a quelques jours que la réforme passerait quoi qu'il arrive et que l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans n'était pas négociable, est-ce que ces paroles de la première ministre ont davantage, selon vous, poussé les gens à se mobiliser?
Oui, parce qu'il y a une question de... on va dire de bras de fer. On a l'impression que c'est un bras de fer entre le gouvernement et la rue. Il faut écouter la rue. Vous savez, les gens, il y a des gens qui sont en vraie souffrance, des gens qui manifestent et qui sont aujourd'hui, on va dire, terrorisés par l'avenir, terrorisés par ce qui se passe et qui le font en toute objectivité. Et après, derrière, il y en a qui attisent également ce phénomène de haine, ce phénomène de manifestation pour en tirer des fruits à titre personnel. Bon, ça, c'est une autre histoire. La première ministre est dans son rôle de dire c'est non négociable, mais on sait très bien qu'il y aura une négociation. Vous dire aujourd'hui quel va être le texte final, je ne le connais pas, mais nous allons nous voir au Sénat, bien évidemment, et nous allons discuter des amendements que nous allons présenter. Des amendements constructifs, encore une fois, tout en ayant la conscience que cette réforme, elle est nécessaire.
Pour vous, les 64 ans, elle a raison de...
Encore une fois, je parlerai plus de durée de cotisation que d'âge de départ, pour moi. Je pense qu'il y a des métiers, encore une fois, on peut partir plus tôt. 64 ans, c'est un âge générique. Vous avez des professions où on part plus tôt. Encore une fois, je parlerai plutôt de durée de cotisation. Je parlerai également de cotisation des femmes aussi, parce que là aussi, il y a un vrai sujet. On est en train de regarder comment on peut améliorer la retraite des femmes, notamment qui ont eu aussi des enfants, donc, dont la carrière a été interrompue. On pourra imaginer peut-être d'augmenter le nombre de trimestres par enfant. Ça aussi, c'est un élément important. Et également... Très important là aussi, le montant minimum des pensions. On a dit 1200, c'est 1200, tout prélèvement confondu. Vous avez une idée également, c'est 1200 avant CSG, 1200
brut. C'est 1200 brut, bon, selon le porte-parole du gouvernement.
On va discuter là aussi encore une fois, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose avec des retraites aussi petites. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de discuter. Nous au Sénat, je vous garantis que nous aurons une attitude tout à fait positive pour discuter, mais tout en défendant quand même... les Français, les retraités, et essayer d'entendre ce qui se dit dans la rue et pas faire la sourde oreille, parce qu'on ne peut pas faire la sourde oreille, c'est pas possible.
Un dernier mot sur la retraite, sur la réforme des retraites, Pierre-Antoine Lévy. Est-ce que vous pensez, si le gouvernement persiste dans son idée de porter l'âge de départ à la retraite à 64 ans, est-ce que vous pensez que ce mouvement peut se durcir et qu'on peut arriver à des mouvements sociaux et ce qu'on a connu lors du mouvement des Gilets jaunes? On voit que les jeunes s'y mettent aussi, les organisations de la jeunesse ont appelé aussi à manifester les 7 et les 11 février prochains. Est-ce que vous craignez finalement que qu'il y ait une guerre intestine qui s'installe en France.
On ne peut pas nier qu'il y a un malaise social qui est en France depuis quelques mois, quelques années. On ne peut pas le nier. Le climat est très tendu, on le voit. Je veux dire, quand vous êtes en assemblée, vous ne pouvez pas l'ignorer, ce n'est pas possible. Donc, on peut craindre que cette situation se durcisse encore plus, que le pays soit bloqué. L'objectif, c'est d'arriver à, encore une fois, réformer le pays qui en a besoin, tout en essayant d'expliquer avec pédagogie l'objectif des retraites, l'objectif des réformes. Ce qui manque, c'est de la pédagogie. On ne peut pas arriver en disant « il faut faire une réforme des retraites et ça sera à l'âge 64, 65, comme ça, sans expliquer ». Les Français ont besoin de comprendre. Après, encore une fois, il y a des chiffres.
Les Français, Pierre-Antoine Lévy, ils vous disent qu'ils ont parfaitement compris le sens de la réforme, mais qu'ils ne veulent pas un âge de départ légal à la retraite à 64 ans.
À ce moment-là, on peut imaginer peut-être, j'en sais rien, de partir plus tôt, mais avec une retraite complètement décotée. Vous savez, si les gens veulent partir plus tôt, ils n'auront pas leur retraite à taux plein. Vous savez qu'on a mis l'âge de départ de retraite à taux plein pour tous à 67 ans, quel que soit le nombre de cotisations. Ça peut être une idée, mais je ne sais pas quel est le texte final qui va sortir des deux assemblées. Encore une fois, les discussions à l'Assemblée nationale commencent la semaine prochaine. S'ils ont eu le temps d'examiner les milliers d'amendements qui restent encore à étudier, ça va durer une quinzaine de jours. Nous verrons qu'est-ce qui arrive, le texte qui arrive au Sénat. Mais au Sénat, nous avons des vrais marqueurs. On est là pour étudier la loi, l'améliorer, en tout cas faire des propositions en tenant compte de ce qui est, encore une fois, de ce que craignent les Français, tout en ayant quand même un objectif, c'est de préserver notre système des retraites pour les générations futures. Ça aussi, c'est important. On ne peut pas dire aux gens, on va annuler la réforme des retraites et on verra ce qui se passe dans 10 ans. Ce n'est pas possible.
Pierre-Antoine Lévy, on passe à un autre chapitre, l'immigration et ce projet de loi qui a été présenté par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. C'est sous cet intitulé, en forme de promesse, que le gouvernement a présenté mercredi, toujours en Conseil des ministres, son projet de loi, donc le second sous la présidence d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il est de nature à finalement vous tranquilliser, vous, sénateur, mais aussi tranquilliser les Français qui sont peut-être réceptifs à cette politique?
Cette loi immigration va déjà dans le bon sens. C'est-à-dire que le gouvernement et le ministre de l'Intérieur ont pris conscience qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. On ne pouvait pas continuer à accueillir des étrangers en situation irrégulière, les accueillir dans des mauvaises conditions, accueillir l'immigration dans des mauvaises conditions, et derrière, avoir des actes qui se sont passés dans les dernières semaines, notamment avec les fameuses OQTF, ordre de quitter le territoire français, qui ne sont pas exécutés et qui finalement provoquent des drames assez importants. Donc la loi sur l'immigration qui a été présentée mercredi en conseil, mardi en conseil des ministres, on va l'étudier, on l'attend, on va dire, avec réserve, encore une fois, mais finalement avec grand intérêt, parce que ça va être l'objet de grandes discussions, chaque groupe politique va donner son avis, et encore une fois de l'améliorer. Pour l'instant, nous sommes que dans des annonces génériques. Elle est présentée, et ensuite, vous savez, c'est lors des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat que va se construire la loi. Ce que je note avec quand même beaucoup de satisfaction, c'est que cette loi va être votée en première lecture au Sénat. Simplement parce que
on nous a donné la primeur,
c'est la troisième ou quatrième fois depuis le début de la mandature que nous étudions les lois en première lecture. Qui peut être un signe de qualité de travail.
Pourquoi ? C'est peut-être aussi parce que le Sénat est réputé être conservateur, plus à droite en tout cas.
Le Sénat est surtout considéré peut-être comme étant plus technique sur les lois. Et aussi travaille de manière beaucoup plus sereine, quels que soient les groupes politiques. Je veux dire que l'Assemblée nationale, on est beaucoup plus dans l'émotion, dans l'affrontement direct. On le voit d'ailleurs, je ne peux pas le nier que c'est très compliqué certaines fois de regarder des débats à l'Assemblée nationale, alors qu'au Sénat, c'est beaucoup plus feutré, on s'oppose, mais on se respecte.
Il y a le volet sur la régularisation des travailleurs sans papier. Oui. Est-ce que ça, ce volet-là, est-ce que c'est de nature à être compris par les sénateurs LR et du centre ?
Ça dépend de la façon dont c'est présenté. Mmh. Encore une fois, on ne peut pas nier qu'il y a des métiers sous tension et que ces métiers sous tension sont souvent des étrangers qui les réalisent. Je veux dire, donc, si effectivement les étrangers qui sont entrés en situation irrégulière, mais qui se sont parfaitement intégrés à la vie, à la République française, qui respectent les lois de la République. Encore une fois, il y a une question de respect des lois de la République, qui essayent d'apprendre la langue, qui essayent d'apprendre les traditions. On pourrait éventuellement imaginer les régulariser sur une durée, un an, deux ans, trois ans, pour permettre justement à des secteurs qui sont en forte tension, restauration, hôtellerie, bâtiment, agriculture, de les régulariser pour permettre ben, finalement aux employeurs qui, ben, de trouver un peu de la main-d'œuvre pour faire leur travail. Mais encore une fois, on n'en est qu'aux prémices de cette loi. Elle arrive en mars,
mars
au Sénat, dans deux mois, dans un mois et demi. On va l'étudier, on va voir comment c'est présenté.
Mais plutôt pour.
On est plutôt, on va dire, bienveillant, mais méfiant, ce qui est normal. C'est le rôle des chambres de se méfier un petit peu sur l'étude des textes.
Alors, une autre loi, mercredi soir, vous avez voté, Pierre-Antoine, vous avez été consulté par le gouvernement sur le l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse, à l'IVG, dans la Constitution. Les sénateurs ont voté à 166 voix pour, contre 152. Est-ce que vous avez voté pour, Pierre-Antoine Lévy ?
Non, j'ai voté contre. Alors nous avons voté sur un amendement de Philippe Bas. Oui. À la loi, qui modifie la terminologie du texte.
La philosophie, un petit peu.
La philosophie.
Qui laisse place à la liberté plutôt qu'au droit.
Vous me posez la question, est-ce que j'ai voté pour ou est-ce que j'ai voté contre ? J'ai voté contre. Je n'ai voté pas contre la question, est-ce que vous êtes pour ou contre l'IVG ? Bien évidemment que je suis pour l'IVG. Et d'ailleurs, 99% des sénateurs qui se sont exprimés à la séance de mercredi soir sont pour l'IVG. La question, c'est est-ce que vous êtes pour l'entrée de l'IVG dans la Constitution ? C'est une erreur. Pourquoi ? Parce que là, il faut être précis. L'IVG est déjà inscrit dans le droit positif à l'article 22.12 du Code de la santé publique. La loi de Simone Veil, la fameuse loi que Simone Veil a eu le courage de faire voter du 17 janvier 1975, elle est déjà considérée comme étant constitutionnelle, puisqu'elle est protégée par quatre jurisprudences, dont la dernière en juin 2001, encore une fois. Ce qui veut dire que ça lui confère pratiquement un droit supérieur, au moins égal à la Constitution. L'amendement de Philippe Bas ne va rien régler du tout. La Constitution, ce n'est pas un catalogue. C'est une règle qui a été créée pour gérer nos institutions. Les élections, le rôle du Parlement, ce n'est pas un catalogue dans lequel on met finalement des droits sociétaux. Parce que si on commence à réagir avec émotion, parce que la Cour suprême des États-Unis, vient l'histoire. C'est aux États-Unis où un État a interdit l'IVG. Et finalement, parce que les États-Unis, qui est un régime fédéral, interdit dans un État, alors c'est même pas dans tous les États, c'est dans un État en particulier, interdit l'IVG, on réagit avec émotion. Et on demande à inscrire l'IVG dans la Constitution alors que l'IVG n'a jamais été menacée aujourd'hui. L'IVG, c'est un socle qui est fort et qui n'est pas menacé. Ce qui veut dire que finalement, si on rentre l'IVG dans la Constitution, et là vous avez vu comment ça se passe, le cheminement. Nous avons voté la loi mercredi. Elle va être revotée à l'Assemblée nationale. Si elle est votée en termes identiques au Sénat, elle va donner lieu à un référendum. Ça veut dire qu'on va interroger les Français dans un moment très tendu. Très tendu sur un sujet. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'IVG ? Vous n'êtes pas à l'abri de savoir ce qu'ils vont répondre comme question.
Vous avez donc répondu contre, mais vous êtes pour.
Mais bien évidemment, je suis pour l'IVG. Mais je suis pour. Je ne veux pas fragiliser l'IVG, justement, en le rentrant dans la Constitution.
Pierre-Antoine Lévy, je suis désolé, on va passer à un autre sujet. Les territoires, c'est un mot qui fait sens pour vous, en tout cas pour les sénateurs. Les territoires sont-ils les oubliés de la République, comme le disait par exemple Gérard Larcher, votre président ? Est-ce que selon vous, les territoires, ils sont les oubliés de la République ?
Moi, ce que je vois aujourd'hui, depuis maintenant deux ans et demi que je suis sénateur, je fais le tour de à peu près la moitié du département. Je vois des maires qui sont investis dans leur territoire, qui sont au service de leur population 24 heures sur 24, mais qui se posent beaucoup de questions. Ils se disent effectivement, est-ce que le pouvoir central, c'est à quoi on sert ? On nous pond des lois qui sont inadaptées, inadaptables et inapplicables sur le territoire. Donc, votre question, elle est tout à fait légitime. Oui, on peut se poser la question. Est-ce que les territoires aujourd'hui sont préservés ? Est-ce qu'ils servent à quelque chose ?
Il dit plus loin que la fracture territoriale s'est aggravée depuis quelques années, depuis 10 ans, dit-il. Cela a empiré avec la désertification médicale. Ça, c'est un sujet épineux. Et on a du mal à comprendre quelle est la politique, quelle est la volonté finalement de contrecarrer cette désertification qui avance à grands pas.
Ben, vous savez, vous avez des territoires qui ne sont pas tous logés à la même enseigne. Aujourd'hui, nous, en Tarn-et-Garonne, par exemple, il y a un vrai problème de désertification médicale.
Mais pas qu'en Tarn-et-Garonne.
Pas qu'en Tarn-et-Garonne, mais il y a des territoires qui ont pris des mesures, justement, fort de cette constatation qu'il y avait moins de médecins.
Oui, alors vous avez vu des avions qui sont affrétés pour que des médecins partent très tôt de chez eux pour aller...
Je l'ai vu, c'est absolument hallucinant. Nous avons également besoin de faire venir des médecins étrangers pour renforcer notre système de santé en France. Et on pille, ce qui est très dangereux, c'est qu'on va même piller des talents étrangers qui ont fait leurs études à l'étranger pour venir travailler chez nous et même mettre en difficulté leur propre pays parce que nous n'avons pas mené, durant les 10-15 dernières années, une vraie politique ambitieuse de santé. Et donc, il y a moins de médecins en France. Le numerus clausus, ça fait beaucoup de mal. On est passé au numerus apertus, mais les effets de cette ouverture ne seront produits que dans 10 ans, 10, 12 ans. Aujourd'hui, comment on fait pour passer le cap ? Et on est obligé de mettre des rustines, de voter des lois pour essayer de trouver des solutions, pour mettre des médecins dans les territoires où il en manque. Et malheureusement, il en manque de plus en plus dans beaucoup de territoires.
Nous allons bientôt conclure notre entretien, Père Antonevi, ça passe très vite.
Trop vite.
En conclusion, depuis 2 ans que vous êtes sénateur, quel est votre sentiment sur l'état de la société, du sentiment qu'ont les élus de leur vie, de leur engagement politique ? Comment vous ressentez cela ?
Je ressens beaucoup d'engagement, en tout cas sur le département que j'ai la chance, où j'ai la chance d'être sénateur, beaucoup de volonté, beaucoup d'amour des territoires, des maires. C'est compliqué d'être élu aujourd'hui, compliqué d'être conseiller municipal, tout simplement parce que les maires aujourd'hui rencontrent beaucoup d'obstacles, des obstacles de nature financière, on leur a baissé leur dotation, la crise de l'énergie, la crise de l'inflation pèse beaucoup sur leur morale et sur leurs finances, ce qui veut dire qu'il y a des projets qui devaient être faits
qui ne
peuvent plus être faits, en tout cas qui sont repoussés parce qu'ils n'ont plus les moyens financiers compte tenu des augmentations de marché. Mais je sens des gens qui sont investis sur leur territoire. Je suis à leur côté. En tout cas, ils savent qu'ils peuvent compter sur mon soutien. Je fais remonter leurs problématiques régulièrement à Paris. C'est pour ça que je vais souvent à Paris, bien évidemment, pour rencontrer les ministres, interroger le gouvernement sur leurs problématiques. Et on arrive à obtenir régulièrement de belles victoires pour leur permettre de faire leur métier de manière un petit peu plus sereine.
Pierre-Antoine Lévy, juste une toute dernière question. Nous sommes en 2023, début 2023. Les prochaines municipales, ce sera en 2026. Est-ce que vous avez commencé à travailler votre projet pour Montauban ?
Non, absolument pas. Je suis totalement investi aujourd'hui dans mon mandat de sénateur. Je crois que vous pouvez le voir. En tout cas, j'espère que ça se voit. Je suis sur le terrain toutes les semaines, 7 sur 7. En tout cas, quand je ne suis pas à Paris, je suis sur le département de Tarn-et-Garonne. Mon seul objectif aujourd'hui, c'est de vivre mon mandat, d'être aux côtés des maires, des élus qui ont besoin de moi. Je n'ai aucune autre ambition en ce moment.
Merci beaucoup, Pierre-Antoine Lévy, d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup, Kader.
Voilà, c'était Politiquement Votre avec Kader Youb. Kader, as-tu déjà calé le prochain rendez-vous ?
C'est en cours de négociation.
Très bien, à bientôt, Kader.
Merci.
Écoutez et réécoutez. CFM Montauban sur cfmradio.fr.
Je te regarde pousser, sonne un peu de travers. On dirait tu n'as pas l'air en forme. En forme de ce qu'il faudrait. Maintenant je te vois, my girl, je te connais déjà, my girl, je danserai avec toi, my girl, my girl. Je te regarde danser, mon cœur une étoile tissée. Dans le mauvais corps, j'imagine un tuteur. À tort, si le vent veut te transformer en fleur, my girl. Maintenant je te vois, my girl. Je te connais.